Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Aujourd'hui, nous poursuivons un format que vous retrouverez régulièrement dans Podcasting, le format carte blanche. Nous n'évoquons pas un article publié par l'un de nos partenaires, mais le travail d'une journaliste ou d'un journaliste du territoire, un dossier, une enquête, un reportage particulièrement marquant qui paraît dans d'autres médias, qu'ils soient régionaux, nationaux ou étrangers. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à un documentaire qui sera diffusé ce soir à 23h sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle Barney Bambuc, athlètes engagés. Et c'est vous qui l'avez réalisé. Bonjour Aurélie Bambuc.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante installée à Bordeaux et vous avez des attaches très fortes dans la région, dont une maison familiale en Dordogne que l'on voit d'ailleurs dans votre documentaire à plusieurs reprises. On va d'abord couper court à un suspense insoutenable. Le couple que vous évoquez dans ce reportage, Ghislaine Barnet et Roger Bambuc, vous le connaissez un petit peu.
Vaguement. Ce sont mes champions de parents. Ghislaine Barnet, triple championne de France de saut en hauteur, et Roger Bambuc, champion de sprint, co-recordman du monde du 100 mètres.
Alors, on va en venir un peu plus tard à votre reportage, à la raison pour laquelle vous évoquez l'engagement de vos parents notamment. Mais d'abord, Aurélie, présentez-nous les athlètes qu'ils étaient. En quoi ont-ils marqué le sport français de leur époque et même le sport mondial pour ce qui est de votre père?
C'était Usain Bolt de l'époque. Il a co-détenu le record du monde du 100 mètres. C'était en 1968 à Sacramento. Alors, faut savoir que cette année-là, au mois de juin 68, il y a plusieurs athlètes américains qui ont couru en 10 secondes. C'était l'époque où les chronos se prenaient de manière manuelle. On n'avait que les dixièmes de seconde pour séparer deux athlètes. Aujourd'hui, on en est au centième de seconde. Donc, cette course-là, ils ont tous fait 10 secondes. Et il se trouve qu'il y avait un Français dans le lot. Et ce Français, c'était mon père. Et c'est le seul Français à avoir codétenu un record du monde sur le 100 mètres. Derrière, il a fait les Jeux Olympiques de Mexico. Et c'était ses deuxièmes Jeux Olympiques. Ses premiers, il les a fait à 19 ans à Tokyo en 1964. Et mon père a été plusieurs fois recordman de France, d'Europe, du 100 mètres et du 200 mètres. Quant à ma mère, elle a été triple championne de France de saut en hauteur, à une époque où on ne sautait pas sur le dos, mais en ventral. Ça s'appelait le rouleau ventral. C'était avant la technique de Fosbury. Qu'elle a vu, elle a assisté à cette révolution du saut en hauteur en 1968 à Mexico. C'était ses premiers Jeux Olympiques. Et ma mère a détenu également le record de France du saut en hauteur. Elle l'a fait évoluer d'1m73 à 1m80. Et sa particularité aussi, c'est d'avoir participé donc à deux Jeux Olympiques, Mexico en tant que sauteuse en hauteur et Munich en 72 en tant que sprinteuse. Elle faisait partie du relais 4 x 400 mètres.
D'accord. Et le record de votre papa que vous évoquez en France, ce record du 100 mètres, il a tenu 18 ans.
Il a tenu le record de France du 100 mètres, absolument. Il a tenu 18 ans et c'est en 1986 qu'il a été battu. Et il se trouve que c'est à ce moment-là que j'ai découvert qui était mon père, puisque moi, à l'époque, j'étais petite, j'avais 8 ans. Et le jour où on a battu son record de France, d'un coup, le téléphone a sonné à la maison, ce qui n'arrivait jamais dans cette maison de campagne perdue dans la Dordogne. Et donc, je l'ai entendu expliquer ce qui se venait de se passer. Et là, je me suis rendu compte, ah bah tiens, je ne savais pas que mon père avait été un champion qui a détenu longtemps un record de France. Et donc voilà, donc c'est comme ça que moi, j'ai eu la révélation sur le tard, on va dire. Mes parents nous ont jamais mis autour de la table pour nous raconter leur passé de sportif.
Et pourtant, il existe beaucoup de témoignages que vous avez d'ailleurs retrouvés en préparant ce reportage, en réalisant ce reportage. Avant de devenir des athlètes accomplis, où grandissent vos parents et dans quel milieu?
Alors, ma mère est née à Fort-de-France en Martinique. C'est la ville principale, la préfecture de cette île. Elle est l'aînée d'une famille de 9 enfants, avec une mère au foyer, un père qui travaillait à la mairie de Fort-de-France, avec un certain maire de Fort-de-France qui à l'époque s'appelait Aimé Césaire. Et donc voilà, donc elle a grandi dans cette ambiance familiale où, en tant que sœur aînée, elle avait la charge de tous ses petits frères et sœurs, et que le sport est arrivé dans sa vie comme un moyen de se libérer, un moyen de sortir de la maison, parce que sinon elle était assignée à toutes les tâches ménagères. Et on a décelé en elle des capacités de sprint, de saut en hauteur, et donc elle a persévéré dans cette voie-là et fait ses études aussi dans cette voie sportive, puisqu'elle est devenue après professeure de sport, et elle a enseigné pendant 40 ans à l'Institut National des Sports et de l'Éducation Physique, ça c'est à Paris, ça s'appelle l'INSEP aujourd'hui.
Très bien, ça c'est pour votre maman, elle s'occupe d'autant plus de ses frères et sœurs qu'elle perd elle-même sa maman très tôt, je crois.
Oui, elle a perdu sa mère à l'âge de 4 ans et demi, elle n'en a aucun souvenir, et ça a forgé aussi son caractère, le côté autonome, indépendant, à vouloir s'en sortir par elle-même. Dans sa carrière, elle a été confrontée au racisme directement, parce que quand on est noir en équipe de France à la fin de ses années 60, c'est exotique, ça reste exotique. On vient d'un département d'outre-mer, c'est exotique, mais on remet en cause son appartenance à la France. Donc quand elle arrivait, même malgré son maillot de l'équipe de France, malgré son survêtement, quand on la voyait avec sa couleur, on se disait non, elle n'est pas française, elle devait se justifier. On la renvoyait toujours à sa couleur, et j'ai trouvé ça dans les archives que j'ai retrouvées en explorant. J'ai fait un travail d'archéologie en fait chez mes parents dans cette maison de Dordogne, parce qu'ils ont conservé beaucoup de choses, mais sans les mettre en évidence. Donc fallait fouiller, chercher sous les lits, dans les armoires, au fond des armoires, dans les greniers. Et j'ai retrouvé des articles de presse de l'époque qui définissent ma mère en tant que Carmen noire, en tant que gazelle noire. Enfin, il y avait toujours un rapport à la couleur, comme si le terme Carmen ou gazelle pouvait effacer ce cliché de la couleur. Et donc, elle a cherché à s'en sortir malgré toutes ces étiquettes, malgré toutes ces barrières, parce que, étant d'une famille nombreuse, sa belle-mère, elle a été élevée par sa belle-mère. Sa belle-mère n'était pas forcément favorable à ce qu'elle fasse du sport, parce que ça se faisait pas qu'une fille se mette en short devant les garçons. Donc elle a dû vraiment lutter, et son esprit de compétition, elle le tient aussi de là.
Pour votre papa, on va pas dire qu'il était prédestiné, mais ça a été peut-être un peu plus facile, un peu plus naturel.
Alors ça a été plus naturel dans le sens où lui, il était le dernier de sa famille. Donc lui, c'est une famille de 6 enfants. C'était le dernier garçon. L'avant-dernier, il a une sœur, une petite sœur derrière. Et donc, il y a les aînés qui sont passés avant. Lui, il avait une envie, il courait dans sa rue Raspail, qui est une rue symbolique à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, puisque c'était la rue dans laquelle il y avait l'usine sucrière d'Arboussier. C'était l'usine qui faisait vivre cette rue. Et aujourd'hui, dans cette rue, il y a le Memorial Act, qui est le premier musée consacré à l'esclavage, le premier musée au monde consacré à l'esclavage. Et donc voilà, donc symboliquement, dans cette rue-là, lui, quand il était petit, il faisait des courses avec ses camarades, et il se trouve qu'il était le meilleur, sans travailler plus que ça. Et au lycée, il a croisé la route d'un professeur qui venait d'arriver, qui s'appelait Jacques Lolo, et qui a vu en lui un potentiel, et les deux se sont entraînés l'un l'autre pour progresser, pour explorer ce potentiel, et exploser derrière et gagner toutes les courses. Et donc c'est allé vite également pour lui quand il avait 18 ans. C'est là qu'il a commencé, 17-18 ans, à exploser vraiment, à faire son premier voyage hors de la Guadeloupe, avec l'envie de découvrir l'Hexagone, l'envie de découvrir Paris, l'envie de montrer ce qu'il était capable de faire après avoir travaillé en sprint. Et voilà comment tout a commencé pour lui.
Alors, On voit dans le reportage comment ils deviennent des athlètes de tout premier rang, avec notamment deux participations aux Jeux Olympiques, 64-68 pour votre père, 68-72 pour votre mère. Sans doute de ces trois éditions à eux deux, celle qui les a le plus marquées reste les Jeux Olympiques de 1968, puisqu'on parlera ensuite de leurs engagements, mais ils sont forcément marqués, notamment par le point levé et ganté des Américains Tommy Smith et John Carlos sur le podium du 200 mètres, soutenu d'ailleurs par l'Australien Peter Norman qui était arrivé deuxième. Comment vivent-ils ces JO, vos parents, et notamment du point de vue extrasportif?
Alors, du point de vue extrasportif, ce qui est intéressant à l'époque, c'est que les athlètes n'étaient pas forcément au courant de ce qui se passait sur le stade. Ils participaient à leurs compétitions, à leurs courses, et ensuite en sortaient. Et le point levé de John Carlos et Tommy Smith, mon père a participé à cette finale du 200 mètres, il finit cinquième de cette finale. Au moment du podium, il n'est plus dans le stade, parce qu'il doit passer à d'autres épreuves. Donc, c'est après qu'il entend parler de ce point levé. Ma mère, c'est pareil. Et il se trouve que mon père, quand même, était curieux et s'intéressait à ce qui se passait avec ces Américains qu'il avait rencontrés à Sacramento. Donc, il savait qu'il y avait cette question noire qui travaillait ces athlètes américains dans leur pays. Question qui, lui, il n'était pas confronté du tout à ces mêmes problématiques. Mais du coup, il avait cette curiosité de savoir, eux, ce qui se passait chez eux. Et il avait un ami journaliste à l'époque qui s'appelle Guy Lagorce, qui témoigne dans mon documentaire, parce que c'était un ancien sprinter. Ce journaliste était proche de ces athlètes américains. Et donc, il savait qu'il se préparait quelque chose. Il savait pas quoi précisément, mais il savait qu'il allait se passer quelque chose. Donc, mon père s'est intéressé à ça, savait qu'ils allaient préparer quelque chose. Une fois qu'il a vu ce qu'ils ont préparé, il s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il n'y a qu'aux Jeux Olympiques qui pouvaient exprimer ce malaise, ce mal-être des Noirs américains. Ces Jeux Olympiques sont une formidable tribune et ça sert aussi à ça, les Jeux Olympiques, à exprimer au monde entier ce que vivent ces athlètes. Ma mère, c'est la même chose, elle a perçu ça après, une fois qu'elle a découvert les images. Mais elle était également d'accord. Alors, je sais que ça a fait l'objet de questionnements, de débats au sein même de l'équipe de France, parce qu'il y en a qui disaient « Nous ne sommes que des sportifs, nous sommes là que pour le sport ». Ben oui, mais mes parents disaient « Nous sommes des êtres humains aussi, et si on a des difficultés, des douleurs à exprimer, le sport aussi est là pour servir de caisse de résonance à des malaises qu'on peut vivre ». Et les athlètes sont tout à fait dans leur rôle. Mon père, mes parents sont restés proches de ces athlètes américains. Tommy Smith, notamment, ils ont eu l'occasion de se voir justement au Memorial Act à l'occasion de l'inauguration du musée. Et voilà, ça a été un moment fort, d'autant plus que ces athlètes, eux, ils ont été rétrogradés après avoir leur geste. Ça a été mal perçu par les Américains, qu'ils soient noirs ou blancs d'ailleurs. Pour eux, c'était un geste contre les États-Unis. Ils ont été exclus de la Fédération américaine d'athlétisme. Ils se sont retrouvés, Tommy Smith, lui, il est devenu enseignant, mais voilà, leur carrière était terminée à partir du moment où ils ont fait ce geste-là. Et voilà, d'avoir recroisé, en tout cas vu mon père avec Tommy Smith à l'époque en Guadeloupe, j'avais trouvé ce moment fort.
Que se passe-t-il ensuite pour vos parents qui prennent leur retraite entre 1968 pour votre papa et ensuite 1972 pour votre mère qui est notamment handicapée par des problèmes au genou? Que se passe-t-il ensuite? Quelle vie mène-t-il après cette première vie sportive?
Alors la première vie sportive de ma mère s'est toujours faite en parallèle de sa vie professionnelle qui était aussi dans l'enseignement du sport. Donc elle a joué sur les deux tableaux et c'était une époque où on était amateur, on n'avait pas le droit d'être professionnel, de gagner de l'argent en faisant du sport. Donc il a toujours fallu qu'elle joue sur les deux tableaux, professeur la journée et puis athlète le soir, elle jouait vraiment là-dessus. Donc après sa carrière en 72 à Munich, une fois que, alors pour l'anecdote quand même, le 4x400 mètres, elle était sélectionnée, elle avait réussi tous les barrages, tout ce qu'on lui avait demandé, elle l'avait fait. Et pourtant, elle n'est pas dans le relais titulaire de Munich, on ne sait pour quelle raison. Donc ça l'a beaucoup déçue et ça elle a doublement déçu de voir les conditions de ces Jeux Olympiques où on continuait, où les Jeux ont continué malgré le massacre qui a eu pour ouvrir les Jeux. Donc d'un coup, elle s'est dit non, décidément, on n'a pas les mêmes valeurs. Je vais poursuivre ma carrière d'enseignante comme je l'ai déjà commencé. Donc après, elle a continué en fait à enseigner à l'INSEP pour ma mère. Mon père, lui, s'est cherché parce que pendant toute sa carrière sportive, il a cherché lui aussi. Il fallait qu'il joue sur les deux tableaux puisque lui non plus n'était pas professionnel, n'était pas payé. Il a suivi des études de médecine parce qu'il rêvait vraiment d'être médecin et même il voulait se rapprocher de la psychologie. Et malheureusement, il a échoué à ses examens parce que c'est assez compliqué de jouer sur les deux tableaux, surtout quand le sport-études n'existait pas. Donc il a échoué à ses études de médecine. Il a cherché vaguement à faire commercial pour Adidas parce qu'il y a certains de ses collègues athlètes qui étaient reconvertis en commerciaux chez Adidas. Donc il s'est dit, je vais faire comme eux. Donc lui, il a hérité de Pony. Il a fait la publicité de la promotion de cette marque sportive, et puis ça lui plaisait pas trop. Enfin, il s'est cherché dans le domaine commercial, mais ça lui plaisait pas. Et puis, il s'est rendu compte qu'en fait, il aimait pas vendre, c'était pas ça qu'il aimait faire dans la vie. Mais il a eu une période de chômage, il a eu une période de questionnement. Et puis, il a croisé sur son chemin des politiques. Le premier, ça a été le maire d'Épinay-sur-Seine, Gilbert Bonnemaison, qui lui a permis de devenir directeur des sports à Épinay-sur-Seine. Et là, d'un coup, pour lui, pour mon père, ça a été un déclic, c'était de se dire, le sport, oui, il sert, c'est un outil d'éducation pour les enfants, pour les jeunes, pour les élèves. Et il a pu tester ça au niveau d'une municipalité. Il a commencé à partager ses idées avec d'autres hommes politiques, un certain Michel Rocard. Et c'est comme ça qu'en 1988, quand Michel Rocard a été nommé Premier ministre par François Mitterrand, il a proposé à mon père de devenir secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, parce qu'il savait justement que ça lui tenait à cœur de lier les deux.
Qu'est-ce qui le pousse à accepter ce poste? Et visiblement, sans trop en parler à votre mère, c'est ça?
C'est ça. Alors, j'étais pourtant là le jour où il a reçu le coup de téléphone parce qu'on était en Dordogne tous les deux et qu'il a fallu qu'on revienne à Paris dans la nuit. Ce qui le pousse, c'est la possibilité d'expérimenter à plus grande échelle ce caractère éducatif du sport, le faire rentrer pleinement dans la vie, dans la société. Et il a voulu tester ça. C'était une belle opportunité que de rentrer dans un gouvernement et de réussir à faire ça. Donc il a lancé du coup la fête du sport, développé les sports-études, développé cet accompagnement justement du sportif dans son évolution professionnelle. Ça lui a manqué quand il était sportif lui-même. Donc vraiment, l'expérience du sportif a toujours nourri la politique du secrétaire d'État et bien sûr le dopage. Il a eu directement affaire au dopage dès son arrivée au ministère. D'abord au Tour de France avec l'affaire Delgado et les suspicions sur ce cycliste. Et ensuite à Séoul, puisque les Jeux Olympiques avaient lieu en septembre 88. Il nous y a emmenés avec mon frère, donc je me souviens très bien de ces Jeux Olympiques-là.
Vous avez vu le triomphe de Ben Johnson?
J'ai vu le triomphe de Ben Johnson et j'ai vu la descente de Ben Johnson parce qu'on était dans l'hôtel où s'est réuni le CIO pour décider de l'exclusion de cet athlète canadien qui s'était dopé pour gagner.
Aurélie, après cette parenthèse politique, votre père se met en retrait de la place publique. Votre mère, vous l'avez dit, elle est restée 40 ans, je crois, à l'INSEP. Et lui, à quoi ressemblait son quotidien après cette parenthèse-là?
Il s'est recherché à nouveau après la période commerciale, après la période ministérielle. Il y a eu un moment de flottement où il se cherchait. C'est le moment où on n'arrêtait pas de lui dire « Vas-y, écris un livre, retourne-toi sur ce que tu as fait, écris, partage ce que tu as fait ». Non, non, il cherchait à faire autre chose, à continuer. Donc, c'est proposé à lui, alors toujours à conjuguer le sport avec la société. C'est proposé à lui le CNRS, l'UNESCO. Donc c'était faire rentrer le sport dans la science, faire rentrer le sport dans l'universalité avec l'UNESCO. Et puis il s'est dit, bah, tiens, je vais m'essayer quand même à un autre combat politique qui était de se présenter à une élection. Alors il a eu une présentation à une élection législative quand il est arrivé au ministère, mais c'était vraiment le parachuté dans l'Essonne. Il n'a pas pu faire campagne et puis ça s'est arrêté comme ça. Là, il s'est dit, je vais chercher un territoire symbolique, vraiment, où les choses ne sont pas faciles pour un socialiste, parce qu'on lui dit, on lui proposait des secteurs où l'élection était gagnée pour les socialistes. Et non, il avait envie d'un défi et il est allé sur les terres du Front National de l'époque, l'Eure-et-Loire, où Marie-France Tirebois était l'une des premières députées du Front National, maire du Front National, c'était la maire de Dreux. Et donc il est allé sur ces terres du Front National et s'est dit, ben, moi, avec tout ce que je représente, moi, sportif, noir, ancien ministre, je vais aller défier le Front National là. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait, et ce n'est pas le Front National qui l'a torpillé, ce sont les socialistes eux-mêmes, parce qu'il n'allait pas sur une terre facile et qu'eux avaient besoin de remporter ces élections-là. Et donc ils ne l'ont pas soutenu. Et sans soutien d'un grand parti derrière, ça devient compliqué de gagner une élection. Donc il a perdu dès le premier tour et il a tourné définitivement la page politique. On a eu beau lui dire « mais tu pourrais quand même ». Alors il a aidé des amis qui se sont présentés, etc. Mais pour lui, c'était terminé la politique, quoi. C'était pas assez humain.
Cette nouvelle parenthèse politique refermée, qu'a-t-il fait depuis ?
Il a terminé sa carrière en étant inspecteur général de l'éducation nationale. À inspecter les professeurs d'éducation physique. Donc voilà, il a terminé sa carrière à l'éducation nationale, mais toujours avec le lien entre sport et éducation. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say, say them loud, say them clear for the whole round world.
Difficile de clore cet épisode, Aurélie, sans vous interroger un peu plus personnellement. Pourquoi avez-vous eu envie de réaliser ce documentaire et qu'avez-vous appris sur vos parents ?
Alors j'avais envie de remettre dans la lumière mon père, parce que forcément quand je dis que je m'appelle Aurélie Bambuc, dans l'œil des quinquagénaires, sexagénaires maintenant, voire septuagénaires maintenant, je vois la petite étoile qui brille parce que ça leur rappelle leur enfance, justement l'époque où ils suivaient mon père à la fin des années 60. Donc envie de le remettre dans la lumière et envie de mettre ma mère dans la lumière, parce que c'est pas parce qu'elle n'a pas été championne du monde ou championne d'Europe qu'elle n'en a pas moins mérité qu'on parle d'elle. Et donc voilà, donc j'avais envie de faire connaître le parcours de ses parents et de ses champions. Et j'avais envie, moi, de transmettre à mes enfants, j'ai trois garçons qui sont en âge tout à fait de comprendre les choses, bah, de leur transmettre l'histoire de leurs grands-parents. Et du coup, par leur biais, de transmettre à la génération d'aujourd'hui l'histoire de ces athlètes antillais qui ont évolué dans une France des années 60 qui n'était pas tout à fait comme celle d'aujourd'hui. Ils découvrent tout ça. Et moi, ce que j'ai appris, ben, j'ai découvert plein de choses déjà en fouillant chez mes parents. Il y a des images que j'utilise. Ce sont des images de la caméra que mon père avait achetée à Tokyo en 1964. Et elle ne l'a pas quitté depuis et il n'a pas arrêté de filmer ses Jeux Olympiques de Tokyo, les Jeux Olympiques de Mexico, sa vie après avec ma mère. Et donc du coup, ça me donne plein d'images où je me vois animée. Je ne m'étais jamais vue animée. Et voilà, et je découvre mes parents autrement. Et dans ce qu'ils ont traversé, oui, j'ai appris sur les périodes historiques, les émeutes de mai 67 en Guadeloupe. J'ignorais cet événement, et pour cause en plus, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les livres d'histoire. Il faut vraiment s'y intéresser. Et en interrogeant mon père là-dessus, voilà, j'ai découvert cette histoire de la Guadeloupe, une histoire de moi aussi.
Des émeutes durant lesquelles on a tiré à balles réelles.
À balles réelles sur les manifestants. Et tout ça, c'était un an avant mai 68, où il ne s'est pas du tout passé la même chose à Paris contre les manifestants.
Merci beaucoup, Aurélie Bambuc, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette carte blanche. Votre documentaire Barnet-Bambuc, athlètes engagés, est à retrouver ce soir, lundi 2 novembre à 23h, sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il sera aussi disponible en replay durant un mois. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leuil et Marion Ruault qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.